du jumeau. Apollo est une application qui met en relation l'écosystème de la santé. Elle connaît aussi bien le médecin, le patient, les hôpitaux, la pharmacie et même les sapeurs-pompiers et vice-versa. Donc Apollo permet de créer une base de données fiable à jour des Africains qui permettra de faire du knowledge management.
Ça veut dire quoi?
C'est-à-dire appliquer les techniques de data science, machine learning et de l'intelligence artificielle pour produire une cartographie de la santé, visant à prévenir et à contenir les pandémies, endémies et autres maladies transmissibles et non transmissibles. Donc, Apollo facilite un déploiement de plusieurs campagnes de sensibilisation et de vaccination. Et aussi, nous avons une manière très efficace de gérer les ressources humaines disponibles parce qu'il faut savoir que nous sommes un des faibles en Afrique.
Vous voulez dire que nous, les Africains, nous sommes mal desservis et c'est l'un des défis que veut relever Apollo.
C'est une plateforme qui touche à tout. Comme en Afrique, on ne le dira pas assez, on accuse une lenteur incroyable dans toutes les démarches administratives. Et eux, nous ne pouvons que s'ajuster à cela en espérant l'améliorer. Mais Apollo en lui-même permet à tout individu lambda d'avoir déjà son healthcare record, je dirais son carnet de santé à portée de main, d'être connecté à un médecin direct et d'avoir accès à celui-ci à n'importe quelle heure parce que ce dernier n'aura pas à chercher. Il aura votre carnet médical et toutes vos informations en face de lui pour même, lorsqu'il sera à distance, donner des conseils au médecin traitant qui sera présent ce jour-là.
Et ça, ça va forcément améliorer la santé en Afrique.
On évite la malpratique, la malpractice. Comment on le dit en fait en français, ça, on permet d'éviter les erreurs médicales et consorts.
Est-ce que ça veut dire, Cheikh, que n'importe qui peut avoir accès à Apollo, tout le monde peut utiliser cette application?
Yes, tout le monde peut utiliser l'application.
Quand est-ce que l'application Apollo pourrait-elle être accessible au public?
À partir du 4 décembre, tout Africain, quelle que soit sa situation géographique, pourra télécharger l'application sur l'App Store et Google Play. Ensuite, nous avons la
campagne. Mais ça sera coûteux?
Pardon?
Combien ça va coûter?
0 francs. Parce que, comme je l'ai dit au départ, c'est au-delà de notre personne. Nous ne cherchons pas à nous enrichir ici.
L'utilisation de l'application Apollo sera-t-elle gratuite?
C'est complètement gratuit. Notre objectif n'a jamais été de s'enrichir, mais d'aider l'Afrique à obtenir une place de qualité dans le Conseil des Nations. Nous avons des soutiens de taille à travers George Washington University, la National Science Foundation, qui est l'entité qui a rendu le rêve Google une réalité. Nous avons Amazon, AWS, Salesforce et bien d'autres. Donc la population africaine est notre priorité. Alors, ce service, cette application sera gratuite, entièrement gratuite pour l'Africain lambda.
Et vous étiez en train de parler d'une campagne de vaccination, laquelle?
Yes, nous avons une campagne Women Children.
Vous voulez dire la mère et les enfants en français?
C'est le nom de notre campagne qui sera lancée en janvier. À travers cette campagne, nous avons pour objectif de rendre la grossesse agréable.
Wow.
C'est-à-dire toute femme enceinte, à compter de janvier 2020, pourra se faire suivre par un docteur et une sage-femme.
Grâce à Apollo?
Oui, grâce à Apollo tout au long de sa grossesse. Ceci permettra de réduire le risque de grossesse et plus loin de suivre la santé mentale de la mère parce qu'il y a des situations post-traumatiques après l'accouchement et tout.
Cela signifie-t-il que grâce à Apollo, les femmes seront suivies même après l'accouchement?
Pendant la grossesse et après la grossesse, la mère sera suivie. Vous savez que le pourcentage de la mortalité maternelle en Afrique subsaharienne compte pour 62% du taux mondial et 50% des nouveaux-nés en Afrique subsaharienne. 50% des morts des nouveaux-nés dans le monde se retrouvent en Afrique subsaharienne. C'est pour lutter contre ce fléau que nous avons décidé de lancer cette campagne-là. Ça nous tient vraiment, vraiment, vraiment à cœur. Et sachant que l'Afrique aura une population de 2,5 milliards, à l'horizon de 2050, c'est-à-dire on aura pratiquement doublé notre population. Il faut qu'il y ait un suivi très, très précis de toutes ces grossesses pour protéger la mère, pour protéger l'enfant. Donc, cette campagne sera lancée à partir de janvier.
Concrètement, comment ça va se passer? Si le médecin est dans la capitale et puis la femme enceinte, elle est dans un village, comment est-ce que le suivi va se faire?
Comme je le disais tantôt, Apollo permet la distribution des ressources humaines sanitaires. Lorsqu'une femme, à travers l'application Apollo, déclarera qu'elle est enceinte, on lui donnera immédiatement toute sa liste de rendez-vous avec le docteur le plus proche.
Et le médecin aura déjà accès à toutes les informations de ses malades.
Le docteur qui sera le plus proche d'elle sera immédiatement affecté pour la suivre. C'est-à-dire il aura son carnet de santé et tout à portée de main pour qu'il puisse faire des précisions et des analyses chaque jour.
J'aimerais savoir si la sage-femme est aussi impliquée dans ce processus et puis quel est le rayon de distance entre la patiente et le médecin, entre la femme enceinte bien sûr et le médecin.
Il y aura maintenant une sage-femme qui sera encore, nous essayons de mettre dans un rayon de 5 km pour qu'elle puisse vraiment être en amont de toute situation. Elles seront les premiers points de contact avec le docteur. Pendant le quotidien de la grossesse, elle pourra contacter la sage-femme pour n'importe quel soin. Et lorsque la sage-femme se verra dans le besoin de partager avec le docteur pour qu'il puisse faire d'autres prescriptions, elle pourra le lui redire. Notre objectif, c'est d'assigner un docteur à chaque femme et une sage-femme qui sera très proche d'elle, qui la suivra pendant toute la grossesse.
Ça sera vraiment super. Hein. On attend le moment et puis on pourra discuter aussi avec les utilisateurs d'Apollo pour voir quelles sont les merveilles que ces personnes vont découvrir ou vont vivre grâce à Apollo.
Je serai ravi d'écouter le feedback.
Et où est-ce qu'on peut utiliser Apollo en ce moment-ci?
Apollo, c'est venant de SCB System. L'objectif, c'est de servir l'Afrique. Donc, Apollo, pour apporter africaine, mais comme l'adage le dit, la charité bien ordonnée commence par soi. En tant qu'Ivoirien, nous avons commencé par la Côte d'Ivoire.
Quels sont les différents volets qu'on peut trouver dans l'application Apollo?
Avec Apollo, nous avons plusieurs volets. Nous avons le volet hôpital est tellement gigantesque. En ce moment, nous préparons l'implémentation d'Apollo dans un hôpital public en Côte d'Ivoire, centre hospitalier public. Pour cela, il va falloir revoir tout le backbone complet de la connectivité pour permettre aux hôpitaux africains d'être à la pointe. Nous sommes en Côte d'Ivoire, je pense aussi au Burkina.
Êtes-vous déjà en contact avec les autorités burkinabées?
Nous avons entamé avec le Burkina quelques conversations pour qu'on puisse mieux s'étendre dessus et voir comment nous pourrons lancer Apollo. C'est beau bien de dire, c'est bien beau le moderne, la mondialisation, mais il n'y a rien de meilleur que l'aspect local qui est en cinétique et irréprochable. C'est-à-dire des Africains au-devant des choses qui sont en train de mettre leur population, leurs frais en priorité pour une qualité de vie.
Pour réaliser tout cela, vous avez besoin de travailler aussi en collaboration avec les autorités. Comment se passe votre collaboration avec les gouvernements locaux et les autorités sanitaires des endroits où vous avez choisi de travailler?
Notre collaboration avec le gouvernement ivoirien se passe bien. Nous avons deux ministères en Côte d'Ivoire qui touchent réellement à notre domaine. Il s'agit du ministère de l'économie numérique et celui de la santé. Ils ont été très heureux de la solution Apollo. J'ai été en Côte d'Ivoire en juin passé.
Je sais que la Côte d'Ivoire, c'est votre pays, mais j'aimerais savoir si vous avez un contrat avec les autorités ivoiriennes.
Apollo est multidimensionnel. L'importance que donne le ministère de l'économie numérique, qui a plus d'expertise technologique, est très, très encourageante. En Côte d'Ivoire, le président, son excellence Ouattara, a une politique tournée vers la jeunesse. C'est dans cette logique que le premier ministre, le ministre des Affaires présidentielles, encourage toute innovation portée par la jeunesse et bien sûr par la diaspora que nous représentons. Nous sommes en phase de signature d'une convention très bientôt avec le gouvernement ivoirien. Avec le Burkina, comme je l'ai dit tantôt, nous entamons la communication.
Est-il facile de gérer toutes ces initiatives?
Ce n'est pas facile d'être africain. Proposer une solution aux normes internationales qui est déjà encensée aux États-Unis. Il y a des sociétés très puissantes qui seront immédiatement concurrentes, sachant qu'elles ne proposent jamais des solutions adéquates. Nous sommes les seuls à mesure de régler le mot africain. Il ne s'agit pas de calmer, mais de guérir. Nous avons plus de chances de trouver la racine de nos mots que quiconque qui n'a jamais vécu en Afrique. La pratique apporte une expérience différente de la théorie. Nous voyons plusieurs institutions internationales qui vont en Afrique, qui disent qu'elles ont des solutions pour régler, mais l'Afrique ne change jamais. Le philosophe Socrate l'a dit, « The measure of a man is what he has with the power. » Qu'est-ce qu'un homme fait lorsqu'il est en position de pouvoir?
Et pour vous, offrir Apollo aux Africains, c'est leur offrir un certain pouvoir.
Je suis rassuré que chaque Africain, à travers votre canal, adoptera Apollo en décembre et effectuera le bilan annuel de santé à moindre coût que nous proposons. C'est 1,3 milliard d'habitants. C'est l'Eldorado. Il faut qu'elle soit en bonne santé pour que nous puissions entamer cette phase de développement. Tiens tout à cœur.
En dehors de la campagne de la femme enceinte, pour qu'elle soit bien suivie, quels sont d'autres projets que vous comptez mener grâce à Apollo?
Déjà, avec Apollo, le bilan annuel de santé se fera à travers Apollo à moindre coût. Je pense que nous en avons déjà parlé et notre solution, c'est de vulgariser le bilan de santé. Nous voulons amener chaque Africain à connaître son état de santé. À partir de décembre, dès que l'application pourra être téléchargeable, en Côte d'Ivoire, bien sûr, pour un départ, nous aurons en charge tous les éléments disponibles pour chaque Ivoirien déjà faire son bilan de santé.
L'application Apollo s'intéresserait-elle aussi à la couverture maladie?
Lors de notre dernier séjour en Côte d'Ivoire, nous avons discuté avec la CEMU, la couverture maladie universelle qu'ils ont en place là-bas. Je pense qu'en ce moment, il faut une couverture plus totale. Apollo peut régler cette situation en un rien de temps. Nous allons nous pencher sur ce cas parce qu'il serait très, très agréable de voir tout Ivoirien assuré et à mesure de se soigner à moindre coût. Voilà un peu qu'est-ce que nous avons en phase en ce moment pour développer tout.
Comme vous l'avez dit, il n'y a pas que la Côte d'Ivoire en Afrique, il y a beaucoup de pays. En combien de temps comptez-vous couvrir le reste de l'Afrique ou un minimum de pays africains?
L'Afrique de l'Ouest, dans notre planification, doit être couverte sous 6 mois. Lorsqu'on dira le mois de mai, on aura couvert la majorité des pays de l'Afrique de l'Ouest. Et maintenant, de là, nous allons aller vers l'Afrique australe et l'Afrique du Sud. L'Afrique subsaharienne est la partie la plus touchée, donc nous allons la couvrir en entièreté avant d'aller en Afrique du Nord.
Est-ce que vous êtes intéressé à vous engager dans des partenariats avec d'autres structures?
Nous sommes vraiment ouverts à travailler en collaboration avec tout gouvernement intéressé qui voudra bien mettre son peuple et le bien-être de son peuple au centre de sa politique de développement.
Pourquoi avoir donné à l'application le nom Apollo?
Apollo, en grec ancien, le dieu grec le plus puissant. D'ailleurs, il est considéré comme le dieu de la santé aussi. Donc, Apollo, pour nous, couvrait complètement assez notre objectif de couvrir l'Afrique, d'améliorer la santé. Mais plus loin, je peux vous donner une anecdote. Mon meilleur ami Ismaël Grandbouté, nous lui avons donné un petit nom, Papalo. Apollo et Papalo rimaient ensemble et donc nous avons opté pour Apollo.
Quel est le processus de mise à disposition d'une application mobile en santé? Combien ça vous a pris le temps?
Bon, en général, tout d'abord, il faut avoir une raison pour la création d'une application mobile en santé. Ensuite, il y aura 5 étapes que je définis comme la validation du modèle de business.
Et quelles sont ces 5 étapes?
L'étape de la confirmation des fonctionnalités, l'étape du design de l'application, l'étape de l'élaboration de la sécurité et de la conformance aux lois en vigueur dans chaque pays, et l'étape du développement de l'application pour terminer. Avec nous, Arlo, nous sommes maintenant à 19 mois en fait de développement. Nous avons pu avoir la chance d'avoir différents dons de la part d'Amazon, 100 000 $ par-ci, 50 000. Nous avons été chanceux d'avoir un produit qui fait l'unanimité. À George Washington University, le directeur de l'innovation était juste ému. Il dit « Wow, c'est so big ». On dira que c'est une chance d'avoir un truc qui est, pour le moment, l'innovation la plus adaptée aux problèmes africains.
Est-ce que vous êtes vous-même satisfait de ce que vous réalisez à travers Apollo?
Simplement satisfait, je suis à 100%. Je peux le dire en anglais si possible.
Like, oui.
I have all my heart, yes. How my heart is like based on like Apollo. I wanted to make it successful
donc,
and everything.
Vous êtes entièrement dévoué à Apollo. Votre cœur est entièrement dévoué à Apollo.
Yes.
Et vous voulez que ça marche.
Yes.
Et vous voulez vraiment que ça réussisse.
Yes. Yes. Bon, je sais que ça marchera vu que c'est imminent. Et en plus, la chose la plus importante, c'est que c'est vital pour l'Afrique. C'est vital pour l'Afrique. Il faut que l'Afrique puisse embrasser Apollo et nous serons tous heureux du résultat.
Merci beaucoup, Cheikh. Ça a été un plaisir de vous entendre répondre à nos questions.
Ce fut un plaisir, toujours heureux de partager des moments avec vous. Merci beaucoup.
Vous venez de suivre Sekou Cheikh Bomba, PDG de CBS Systems, doctorant en ingénierie management et surtout inventeur d'Apollo, une application qui facilite la télésurveillance et la téléconsultation des malades. À présent, nous vous invitons à suivre Carnet de santé.
Cette semaine, dans Carnet de santé, un regard sur la résistance antimicrobienne. La mauvaise utilisation des antimicrobiens et leur surutilisation peuvent entraîner la résistance antimicrobienne. Un expert nous en dit plus. Et êtes-vous en mesure d'acheter des antibiotiques sans prescription? Nous avons vos réactions. Ensuite, nous verrons à quoi pourrait ressembler le stockage et l'expédition d'un vaccin COVID-19. Enfin, des chiens capables de détecter le COVID-19. C'est dans cette édition de Carnet de santé. Bonjour, ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition de Carnet de santé. C'est l'une des 10 menaces principales dans le monde pour la santé publique selon l'Organisation mondiale de la santé. C'est la résistance aux antimicrobiens. Ce phénomène survient lorsqu'un micro-organisme tel qu'une bactérie, un virus, champignon ou parasite subit des modifications de telle sorte que les médicaments utilisés pour soigner l'infection qu'il provoque deviennent inefficaces. Selon les experts, la résistance aux antimicrobiens survient naturellement au fil du temps, généralement par le biais de changements génétiques. Cependant, leur mauvaise utilisation et leur surutilisation accélèrent ce processus. Par exemple, l'usage des antibiotiques pour les traitements d'infections virales, comme le rhume ou la grippe, ou lorsque les patients partagent leur traitement ou ne les finissent pas. Le développement et la propagation de la pharmacorésistance sont également favorisés par l'utilisation de médicaments de mauvaise qualité, les prescriptions erronées et la lutte insuffisante contre les infections. Selon l'OMS, au moins 700 000 personnes dans le monde meurent chaque année d'infections résistantes aux médicaments. D'ici 2050, le nombre devrait passer à 10 millions. En plus des graves conséquences pour la santé humaine et la médecine moderne, la résistance aux antimicrobiens entraîne des coûts économiques importants. Reportage de João Marcos avec le récit de Mouamadou Oumfa.
Il y a une raison pour laquelle plusieurs pharmacies en Angola ne vendent pas d'antibiotiques aux patients sans prescription médicale.
Nous conseillons aux patients d'aller chez un médecin car il y a toujours des patients qui disent « J'ai oublié l'ordonnance du médecin, mais j'ai besoin d'un peu d'amoxicilline ou de Bactrim. Ce sont des antibiotiques et j'ai besoin d'une prescription médicale. Alors je leur conseille toujours de l'obtenir. »
Dans ce laboratoire de microbiologie de l'hôpital général de Benguela, où sont effectués des tests sur des maladies causées par les bactéries, le microbiologiste Dr Pedro de Jesus Gomez fait le suivi d'environ 100 personnes par mois. Il nous rappelle que le mauvais usage des antibiotiques et l'automédication sont des réalités qui contribuent à une augmentation de la résistance antimicrobienne.
Certains antibiotiques doivent être pris toutes les 12 heures, d'autres toutes les 8 heures. Cette règle ne peut pas être enfreinte. Les bactéries ont un système d'autodéfense. Disons que c'est un médicament que je dois prendre toutes les 8 heures. Et si je ne le fais pas, si je le prends après 10 ou 12 heures, il y aura une période pendant laquelle le sang n'aura pas d'antibiotiques et les bactéries qui s'y trouvent, que nous essayons de combattre, vont se multiplier et maîtriser le mécanisme antibiotique.
Outre les conséquences sur la santé, il y a aussi le coût économique pour les gouvernements et les citoyens.
C'est parce que si une personne vient à l'hôpital, il reste longtemps. Si le patient est sous antibiotiques, cela augmente généralement le coût du traitement. Ici, le problème est crucial compte tenu des ressources limitées de notre système de santé. Et si nous administrons le bon médicament et si nous, médecins, le faisons correctement, les infirmières le feront correctement également lorsqu'elles soigneront le patient.
Par ces temps de crise, très peu d'Angolais peuvent supporter le fardeau supplémentaire d'une longue prise en charge médicale. C'est pourquoi le docteur Gomez conseille...
Si vous ne vous sentez pas bien, consultez le médecin. C'est la seule personne qui doit vous prescrire les antibiotiques.
Un conseil qui pourrait sauver bien de vies.
Quelle est votre observation de l'accès aux antibiotiques dans votre communauté? Sont-ils facilement accessibles sans ordonnance? Voici ce que l'un d'entre vous a répondu sur Facebook. Alphonse Mbouaki écrit « Les avertis n'achètent pas sans ordonnance, mais parfois recourent aux produits dont l'accès est facile par rapport à la modicité des prix et le manque de contrôle au point de vente. » Lorsqu'il y a urgence, on prend ce qui est abordable sans ordonnance. Il y a des étapes telles que rendez-vous, consultation, paiement des examens de labo qui compliquent les choses pour certains. C'est pourquoi les patients prennent des raccourcis. Pour en savoir davantage sur la résistance aux antimicrobiens, je me suis entretenue avec le docteur Carsten Hermerich, vice-président pour la santé et les solutions médicales chez ACT. Regardez.
Eh bien, considérons les différentes manières dont vous pouvez développer une résistance. Pour cela, nous devons regarder où les antibiotiques sont utilisés et, fondamentalement, vous avez le composant agricole et vous avez des médicaments là où c'est utilisé pour lutter contre les infections. Une façon de développer une résistance aux antimicrobiens, c'est donc de consommer des aliments et de l'eau qui ont été déjà traités ou qui ont été en contact avec des antibiotiques ou qui contiennent des bactéries ou des restes de bactéries qui transmettent ensuite la maladie. Une autre façon est de suivre un traitement avec des antibiotiques, de traiter une infection et de laisser des bactéries dans votre corps qui développent une résistance. Et enfin, vous pouvez contracter une infection basée sur des bactéries qui sont déjà résistantes. Ce sont donc différentes manières de développer une résistance aux antimicrobiens. Vous avez demandé quelle était la différence entre les pays industrialisés et les pays en développement. Le problème est similaire dans les deux cas, à savoir la disponibilité gratuite d'antibiotiques et les conséquences de la possession d'antibiotiques sans ordonnance sont essentiellement une surutilisation, donc une petite infection traitée avec des antibiotiques. Parfois même les infections virales sont traitées avec des antibiotiques là où elles ne fonctionnent pas du tout. Et puis vous avez le phénomène de surutilisation et de sous-dosage, le fait de ne pas les utiliser pendant une période de temps suffisamment longue. Et c'est quelque chose que nous voyons le plus souvent. Alexander Fleming, l'inventeur de la pénicilline, a prédit qu'une fois que la pénicilline sera largement disponible, elle pourra être achetée dans tous les magasins sans ordonnance. Il y a un risque qu'elle soit surutilisée et le sous-dosage entraînerait le développement d'une résistance. Alors, quelles mesures pouvons-nous prendre? Nous pouvons certainement réduire la résistance aux antibiotiques par une utilisation plus restrictive de ces médicaments. Cela implique une disponibilité moindre en vente libre dans les pharmacies, ainsi qu'une prescription médicale plus prudente et plus consciente. Ce que nous pouvons également faire, c'est réduire, idéalement, éviter l'utilisation d'antibiotiques en agriculture. Comme je l'ai dit, c'est dans la chaîne alimentaire. C'est là où les antibiotiques sont également transmis. Et enfin, éviter la propagation des infections par des bactéries résistantes grâce à des mesures d'hygiène préventive. Donc, il y a beaucoup de choses que nous pouvons faire pour influencer la croissance ou non de la résistance aux antimicrobiens.
Pour plus d'informations et l'actualité sur le nouveau coronavirus, rendez-vous sur notre site web voaafrique.com. Vos questions et vos réactions sont toujours les bienvenues sur la page Facebook de VOA Afrique. Vous pouvez aussi me suivre sur Twitter, @lenormoudou. Merci de votre fidélité à Carnet de Santé. D'ici la semaine prochaine, on se lave les mains fréquemment et on utilise un masque en public. Portez-vous bien et à très bientôt.
Arrivés à la fin de Votre santé, votre avenir. Nous avons parlé de la télésurveillance des patients avec notre invité, Sekou Cheikh Bomba, PDG de CBS Systems en Virginie aux États-Unis, avec une filiale en Côte d'Ivoire. Sekou Cheikh Bomba est aussi doctorant en ingénierie management et il a inventé Apollo, un outil important qui facilite la téléconsultation et la télésurveillance des patients et favorise aussi la promotion de la santé en Afrique. Après, nous vous avons proposé Carnet de santé présenté par Lenore Moudou. Ce magazine santé a été réalisé grâce au concours de Cheikh Tiro. À la présentation, Nanit Talani. Continuez d'écouter VOA Afrique et n'oubliez surtout pas de prendre soin de votre santé, car votre santé, c'est votre avenir.
votre santé, votre avenir. Une production de VOA Afrique.